franceinter.fr.
Et ce sujet qui va forcément vous intéresser, avec les plus vieilles roches terrestres, contiennent-elles également les plus vieux fossiles du monde vivant? Une équipe internationale publie aujourd'hui dans la revue Nature l'étude détaillée de ces roches de la côte est du Canada. Ils y décrivent des tubes, des granules et même des rosettes, une multitude de formes très particulières présentées par les chercheurs comme les plus vieux micro-organismes fossilisés. Sylvain Bernard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous pour en parler. Vous êtes chercheur en paléontologie chimique à l'Institut minéralogique de physique des matériaux et de cosmologie chimie à l'université Pierre et Marie Curie. Alors d'abord, à quoi ressemblent ces traces, ces structures retrouvées dans ces roches québécoises en l'occurrence? Décrivez-nous un peu les images qu'ont réussi à obtenir ces chercheurs.
Alors, bon, ces formes, elles sont multiples. Ces chercheurs, ils ont observé donc les roches les plus vieilles du monde, hein, qui sont datées entre 3,7 et 4,2 milliards d'années. Et ils ont trouvé dans ces roches des sortes de tubes, de filaments, qui font quelques dizaines de microns de long, pour quelques microns seulement d'épaisseur. Mmh. Et ils ont également trouvé des rosettes. Alors, ce qu'ils appellent des rosettes, c'est des sortes de structures concentriques, à nouveau composées de minéraux principalement. Mmh. Et puis, ils ont trouvé des granules. Donc, c'est des zones de ces roches constituées de petits grains qui font quelques microns à quelques dizaines de microns, avec des minéraux et des grains de carbone.
Alors, ce que vous décrivez ne fait pas penser directement à de la vie. Qu'est-ce qui concrètement permet à ces chercheurs de parler de micro-organismes fossilisés? Parce que c'est les mots qu'ils emploient.
Oui, alors, c'est pas exactement ce qu'on pourrait appeler des micro-organismes fossilisés. Ces chercheurs, ils interprètent ces structures comme étant des restes de la présence de micro-organismes. Il faut bien se rendre compte que ces roches, c'est des roches très très vieilles et donc elles ont subi une histoire géologique très compliquée. Elles ont été enfouies en profondeur, elles ont subi de la température, elles ont été écrasées par le poids des roches au-dessus. Et donc ces roches se sont transformées au cours des 4 milliards d'années de leur existence. Et donc ce qui reste dans ces roches, en tout cas d'après ces auteurs, c'est des restes de micro-organismes complètement dégradés qui auraient réagi, dont les molécules organiques auraient réagi avec les minéraux présents, pour former ces structures.
On connaît sur Terre aujourd'hui des micro-organismes qui forment des tubes comme ça dans la roche ou des granules?
Alors on en connaît, ouais, ça a été décrit par différents auteurs de micro-organismes qui creusent certaines roches volcaniques et qui vivent dans ces tubes. Ça a été documenté. C'est d'ailleurs sur cette base-là que les auteurs de l'article dont on parle aujourd'hui ont interprété ces tubes comme des tubes creusés par des micro-organismes.
Et l'idée, c'est de comparer avec quel autre type de structure? Naturellement, ces tubes peuvent se creuser, alors?
L'idée, c'est toujours la difficulté quand on regarde des roches très anciennes, c'est de réussir à identifier l'origine biologique des objets qu'on regarde. C'est-à-dire qu'on peut très bien former des objets similaires sans faire du tout intervenir le vivant. Et pour le coup, des tubes de ces dimensions-là dans des roches volcaniques, ça peut aussi se former au cours du refroidissement de la roche volcanique, de la lave à l'origine de la roche volcanique. C'est ce qu'on appelle des microlithes. Ça peut avoir toute forme et toute dimension, et donc notamment celle-là également.
Mais alors, l'idée de cette publication, Sylvain Bernard, c'est de nous dire quoi au fond? C'est que ces micro-organismes ont existé il y a aussi longtemps que ça, il y a 4 milliards d'années, et que donc la vie serait née si tôt sur notre planète?
Bah, c'est tout l'enjeu en fait. C'est-à-dire qu'on sait maintenant de façon assez certaine que l'environnement il y a 4 milliards d'années pouvait, enfin, en tout cas certains environnements sur Terre étaient favorables à l'apparition du vivant. Mmh. Et on n'a toujours pas de preuve directe que la vie existait il y a
aussi longtemps
d'années,
ouais,
sur Terre.
Ouais.
Et donc ça, c'est une étude, c'est vraiment très intéressant. En tout cas, ils ont beaucoup d'observations et ça les mène à interpréter. Ils interprètent ces observations comme une preuve que la vie existait sur Terre à ce moment-là, donc c'est vraiment une grosse découverte.
Mais vous êtes d'accord avec cette interprétation ou pas? Parce que c'est assez controversé, il faut bien le dire quand même. Hein.
Alors, c'est très controversé et ça s'explique assez facilement, hein, toutes ces controverses. À nouveau, c'est parce que ces roches sont très vieilles, très déformées, elles ont subi des températures très élevées. Hein, ces roches, notamment, elles ont subi des températures de 500 degrés à peu près. Et donc, tout ce qu'on retrouve dans ces roches, c'est très compliqué à identifier. Je dirais pas que je suis pas d'accord, je dirais qu'il faut vraiment être prudent parce qu'on peut toujours imaginer des processus ne faisant pas intervenir le vivant pour former des structures similaires.
Vous parliez de l'environnement, à quoi ressemblait l'environnement extérieur au moment de la formation de ces roches? On était où?
Alors, ces roches, c'est des basaltes. Ils ont retrouvé des basaltes en coussin, c'est-à-dire que c'est typique de lave qui refroidissent très rapidement sous l'eau. Plus exactement, ces roches, elles viennent de systèmes hydrothermaux qui existait à l'époque, et donc on se trouverait, en tout cas ces roches se sont formées dans des environnements très similaires à ce qui peut exister au milieu des océans à l'heure actuelle, c'est-à-dire des zones où on forme le plancher océanique, où on a des remontées de lave qui refroidissent très très rapidement dans l'eau, et puis on a des systèmes hydrothermaux avec des circulations de fluides très chauds, et une richesse minéralogique qui est inégalée ailleurs sur la planète. Alors ça, à l'heure actuelle, c'est des environnements où on sait qu'il y a de la vie, qui a colonisé ces environnements. On ne sait pas si la vie apparaît dans ces environnements, mais on sait qu'il y a de la vie dans ces environnements. Et donc, toute l'idée, c'est d'aller vérifier que la vie existait déjà dans ces environnements il y a 4 milliards d'années.
Alors, il y a notre invité, Purificación López-García, qui a envie de réagir, évidemment, en tant que spécialiste des micro-organismes en milieu extrême. Vous êtes très partagé, vous aussi, sur l'interprétation qu'on pourrait faire de cette étude, à savoir que la vie serait apparue il y a si longtemps que ça?
J'ai pas de problème pour penser que la vie a pu apparaître à cette époque-là, puisque les conditions étaient déjà favorables. Mm-hmm. Mais je suis, comme Sylvain, très prudente quand il s'agit d'interpréter ces micro-fossiles, entre autres parce que au moment où la vie est apparue, juste avant, il y avait de la matière organique, des systèmes hydrothermaux, et il est tout à fait possible de former des structures qui ressemblent à la vie et qui piègent de la matière organique. Une matière organique ne formée nécessairement par la vie, mais de manière abiotique, c'est-à-dire de manière non biologique, et que ces structures peuvent piéger cette matière organique qui est interprétée par la suite comme des microfossiles.
Mais ouais. Donc c'est une question d'interprétation là où il faut être très prudent. En fait,
il faut être extrêmement prudent parce qu'on peut avoir des choses similaires à la vie qu'on peut appeler des biomorphes construits de manière non biologique.
Mais là, quand même, cet endroit-là sur Terre, ces roches-là en particulier, donc au Québec, elles sont extrêmement intéressantes.
Hein. Ah, tout à fait, ça, c'est bien sûr.
Sylvain Bernard, pour conclure vraiment sur le sujet, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait trouver plein de fois des roches avec les mêmes structures, mais pas la même histoire ?
Ouais, alors en fait l'idée pour essayer de s'affranchir du problème de réactions abiotiques qui peuvent avoir lieu pendant l'histoire géologique de la roche, pendant son enfouissement, et qui peuvent donner naissance à ces biomorphes, à ces pseudo-microfossiles, il faudrait qu'on puisse comparer ce qu'on observe dans ces roches vieilles, très vieilles, à des roches de même âge qui se seraient formées dans les mêmes conditions, mais qui n'auraient pas forcément subi la même histoire géologique. Ça permettrait de pouvoir mettre de côté plusieurs processus qui ont lieu pendant l'histoire géologique de la roche et conserver seulement quelques processus à discuter, et ce serait déjà beaucoup plus facile. Là, on regarde des roches qui ont subi une histoire compliquée, polyphasée, et donc ça devient très très dur de comprendre ce qu'on regarde. En fait.
On a des chances de trouver des roches aussi vieilles ailleurs sur Terre ?
Ben, pour le coup, ça, c'est des roches, enfin ces roches du Canada là, sont les plus vieilles qu'on connaisse jusqu'à présent. Mais on sait qu'on a des roches au Groenland qui ont 3 milliards 8, 3 milliards 7, et on connaît pas toutes les roches du Groenland puisque la plupart sont recouvertes de glace. Et donc il est possible qu'on découvre des roches un peu plus vieilles encore, donc qui s'approcheraient de l'âge de cette formation, un Nuvuagituk. Et donc peut-être qu'on va avoir d'autres échantillons prochainement.
Bon, grâce au réchauffement climatique, alors pour le coup, peut-être, c'est moins des aspects positifs, si on peut dire, avec toutes les précautions d'usage. Merci beaucoup, Sylvain Bernard, pour vos explications. Cette publication est sortie aujourd'hui dans la revue Nature, et on va parler justement peut-être des origines de la vie avec ce site de Dalol en Éthiopie dans un instant. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une grande première dans le domaine des thérapies géniques. Une équipe de l'hôpital Necker à Paris déclare avoir soigné totalement un patient atteint de drépanocytose sévère. Grâce à ses propres cellules souches, cette maladie due à une mutation génétique conduit le corps à créer des globules rouges déformés. En prélevant des cellules souches dans la moelle épinière du patient en modifiant le gène à l'origine de la maladie, les médecins sont donc parvenus à produire une lignée de cellules traitées qui ont ensuite été réinjectées dans son sang. 15 mois après la greffe de ces cellules corrigées, le patient n'a plus besoin de transfusion et a repris une activité physique et scolaire normale. L'anthropocène est incontestable, nous disent les minéralogistes dans un article publié aujourd'hui. Une équipe américaine affirme que 4% de tous les minéraux recensés sur la planète sont issus directement ou indirectement des activités humaines. Ces 208 nouveaux minéraux sur les 5200 connus à ce jour ont été formés en moins de 250 ans. Un clin d'œil comparé aux 2 milliards d'années d'évolution depuis l'apparition de l'oxygène sur Terre, qui ont conduit donc les processus géologiques à une différenciation très riches des minéraux, qu'ils soient issus des extractions minières, de la décomposition des navires au fond des océans ou des incendies. Ces nouveaux minéraux sont donc une preuve de plus que la Terre vit une époque géologique façonnée par l'homme. Et puis pour finir, l'éléphant, ce grand insomniaque, en étudiant le sommeil de plusieurs éléphants en liberté dans la nature, une équipe de chercheurs d'Afrique du Sud conclut que ce mastodonte ne dort pas plus de 2 heures par jour et peut rester très régulièrement plus de 48 heures sans dormir. C'est la plus courte durée de sommeil enregistrée chez tous les mammifères étudiés à ce jour. Une étude surprenante, sachant qu'en captivité, l'éléphant peut dormir jusqu'à 6 heures par jour. Sans en avoir aucune preuve, les chercheurs évoquent quand même l'hypothèse du stress qui maintiendrait ces animaux dans la nature en éveil, avec la peur d'être surpris par un lion ou un braconnier.